Vous, il se passe toujours quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez pris une bonne décision hein, en venant ici. Vous auriez pu décider d'être ailleurs, vous avez choisi d'être ici. Et je crois que ce n'est pas en vain, en réalité, ce n'est pas un tract, ce n'est pas une invitation, ce n'est pas une personne qui vous a invité dans cet endroit, c'est Dieu lui-même qui vous a attiré dans sa présence. Et quand Dieu attire une personne dans sa présence, c'est forcément pour parler à son cœur. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous vous dites, bon, Dieu va certainement parler à quelqu'un d'autre, mais pas à moi, simplement parce qu'il ne me connaît pas. J'aimerais vous dire que Dieu vous connaît. Dieu te connaît et il va te parler. Je me souviens lorsque j'étais plein de défauts, j'en ai encore, mais il se voit moins. J'allais à l'église et j'avais honte de ma personne parce que je regardais à tous les travers de ma vie. Et afin que personne ne me voie, je me cachais dans un coin, je me mettais au coin là-bas. Et là, sur ma chaise, il y avait quand même une petite prière qui montait vis-à-vis de Dieu parce que je me disais, j'ai tout essayé et finalement, j'en arrive à cette conclusion. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour moi. Et plusieurs fois, j'ai demandé à Dieu d'intervenir dans ma vie. Et là où j'étais, alors que finalement, je ne le connaissais pas vraiment, il s'est révélé à moi. Et à chaque fois qu'il est venu parler à mon cœur, il s'est toujours passé quelque chose de merveilleux. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce soir, je ne vais pas me présenter, si ce n'est par quelques mots, puisque pendant ces 3 jours, je vais un petit peu vous partager aussi ma vie au travers de mes prédications, simplement pour vous dire que je suis situé en région parisienne, j'habite à Chartres, l'église dont je fais partie se situe à Sarcelles, le ministère que Dieu m'a confié est plus un ministère axé sur l'évangélisation, je parcours les églises, les quartiers sensibles, les prisons pour témoigner de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà. Et je vais vous parler un peu de moi ce soir, comme ça. Eh bien, à la fin des 3 réunions, vous en saurez plus sur moi que moi sur vous. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous conduire dans un texte qui se trouve dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Et si j'ai un titre à donner à mon message, c'est celui-ci. « Aujourd'hui est un jour nouveau ». Dites à votre voisin, aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Lorsque je dis c'est un jour nouveau, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, tu peux prendre de nouvelles décisions. Et il y a des décisions qu'on prend dans la vie qui sont mauvaises. Et puis, il y a des bonnes décisions. Mais il y a une décision qui dépasse de toutes. Chacune des décisions que nous avons prises sur la terre, c'est celle d'avoir dit oui un jour à Jésus-Christ. Celle d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une décision qui a des conséquences aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité. Donner sa vie à Jésus, c'est l'assurance de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la véritable liberté. Alors ce soir est un jour nouveau. Ce soir, c'est un jour où tu peux prendre la plus belle et la plus grande décision de ta vie. Je me souviens, j'étais dans une prison en Guyane. Il n'y a qu'une seule prison en Guyane et à l'intérieur de laquelle il y a des criminels endurcis. Vous avez des trafiquants d'or, des trafiquants de cocaïne. Bref, l'aumônier m'avait envoyé un mail. Il m'a dit, Yanis, je t'ai sélectionné les criminels les plus durs, les plus rudes de cette prison. Et je me suis posé une question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ces détenus? Je vais leur dire que je braquais des banques, ils vont me rire au nez. C'est ce qu'ils faisaient à l'âge de 10 ans pour se faire la main. Et puis Dieu m'a conduit dans un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, où il est dit, « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, car mon désir est de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors j'ai posé quelques questions aux détenus qui étaient présents. Je leur ai demandé si c'était la volonté de Dieu qu'ils soient ici, derrière ces murs. Je leur ai demandé si, à leur avis, Dieu était heureux lorsqu'il les observait, regardait la création, la lune, les étoiles derrière leurs barreaux. Je leur ai demandé si ça réjouissait le cœur de Dieu qu'il soit présent dans cette prison. Je leur ai demandé si c'était la volonté de Dieu qu'il soit là en train de souffrir chaque jour. Et ce jour-là, plus de 300 détenus se sont levés et ont décidé de confier leur vie à Jésus-Christ. Ils ont pris une grande décision. Ils ont retrouvé la paix, ils ont retrouvé la véritable liberté en Jésus. Nous allons aller dans un texte, donc Luc 16, à partir du verset 19. Et il est dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. » Et il lui dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Nous avons là deux personnes, un riche et un pauvre. Le premier ressemble, c'est un homme riche et il ressemble à beaucoup de gens dans ce monde. J'ai rien contre les richesses. Hein. Je dis souvent, l'argent est un mauvais maître, mais c'est un bon serviteur. Mais toujours est-il que cet homme, eh bien, son Dieu, c'était l'argent. Il vivait pour lui-même. Chaque jour, il menait brillante vie. Il était vêtu des plus beaux habits. Si c'était à notre époque, certainement qu'il aurait des costumes Armani, Chanel, je ne sais pas, mais c'est, comme diraient les jeunes, la bogosité. Il en mettait plein la vue. Et puets, il se rassasiait des mets les plus succulents. Alors, je ne sais pas quels étaient les plats de l'époque, mais si c'était aujourd'hui, certainement, il aurait à sa table du caviar, du champagne, des langoustes, bref, la grande classe. Il devait habiter un château et il était à l'abri de tout. Chaque jour, il menait brillante et grande vie. Et puets, le second, c'est un pauvre. Le contraste est assez saisissant. Un pauvre qui s'appelle Lazare. Lazare, il est malade, il est couché devant le portail du riche. Il n'a qu'un seul désir, se rassasier de ses ordures. La Bible dit que chaque jour est un véritable calvaire, un supplice pour lui, et même les chiens viennent lécher ses ulcères. Le riche mourut. Et puisque sur la terre, il avait décidé de vivre pour lui-même et de ne pas écouter les prophètes ou Moïse, puisque sur la terre, il avait assouvi ses propres désirs, ses propres passions, il se retrouve en enfer. Conséquence de ses choix. Et puets, Lazare, qui, aux yeux de tout le monde, était pauvre, en réalité, était riche. Parce que lui, dans son cœur, il avait confié sa vie à Dieu. Et nous le retrouvons dans le sein d'Abraham. qu'est-ce que la vie peut changer en un instant? Je suis absolument certain qu'à l'enterrement de cet homme riche, il y a dû avoir la fanfare. Peut-être des chefs religieux, des chefs politiques sont venus faire des éloges, des discours à son égard. Peut-être même qu'on a réfléchi pour lui donner une rue à son nom, pour mettre une rue à son nom. Il n'y avait pas les journaux télévisés, il n'y avait pas la presse écrite, mais on a dû parler du décès de cet homme riche. Un peu comme on le fait aujourd'hui lorsqu'une star du show business quitte la terre. Je ne citerai pas de nom, mais dernièrement, il y a à peu près un an, il y a quelqu'un, l'emblème de la France, qui a quitté la terre. Mais lorsqu'on écoute ces chansons, on se dit, mais ça craint, quoi. Toujours est-il que cet homme riche, il se retrouve en enfer. Lazare, lui, à son enterrement, il n'y avait personne. Il n'a pas un rond, pas une thune, pas d'argent. Rien de flouze, comme diraient les Arabes. Panier à rien, comme diraient les Antillais. Alors on a dû le mettre dans un caveau de la municipalité. Personne est là à son enterrement. Personne n'est là pour faire un discours pour lui. Non, laissé pour contre. Mais Lazare, nous le retrouvons dans la présence de Dieu. Désormais, c'en est fini de la mendicité, c'en est fini de la douleur, c'en est fini de la misère. Il est dans le sein d'Abraham. C'est la paix, c'est la joie pour l'éternité. Aujourd'hui, je considère le monde comme un cimetière à ciel ouvert. Les gens sont morts quoique vivants. Les gens sont morts quoique vivants. Il y a des gens, lorsqu'on observe leur vie, on se dit, mais pourquoi ils sont tristes? Ils ont l'apparence de tout avoir, de tout posséder. On a chanté un chant, il y a un vide, il y a un vide. Et parfois c'est ce vide qui est dans l'homme, qui appartient à Dieu, que les gens essaient de combler. L'argent ne peut pas combler ce vide qui est réservé à Dieu. Et on le voit, parfois les gens vont prendre de la drogue, parfois les gens vont faire n'importe quoi avec leur vie et ils n'arrivent pas à combler ce vide. Parfois les gens qui ont de l'argent se suicident. Ils n'arrivent pas à combler ce vide parce que ce vide appartient à Dieu. Et puis il y a des gens qui ont l'apparence d'être pauvres, qui ont l'apparence de ne rien posséder. Mais lorsqu'on les observe, on se dit, mais pourquoi ils dégagent une telle joie? Pourquoi ils ont toujours de la compassion vis-à-vis de leur prochain? Pourquoi ils ont toujours de l'empathie? Pourquoi ils ont toujours une main tendue? Pourquoi ils ne sont jamais abattus ou tristes? Eh bien parce que ces personnes, ils ont comblé ce vide par la présence de Dieu. Je ne suis pas fier, mais j'ai grandi dans une extrême pauvreté et très vite, pour moi, l'argent a été synonyme de revanche. Il me fallait de l'argent pour exister. En réalité, je vendais de la drogue, je faisais du mal à mon prochain et plus je gagnais de l'argent, plus je m'identifiais à ce que je possédais, quoi. On ne m'a pas respecté auparavant parce que j'avais rien, mais à présent que je roule en belle voiture, que j'ai des beaux habits, que j'ai des bijoux, que je mange dans les plus beaux restaurants, que je dors dans les plus beaux hôtels, tout à coup, le regard des autres change sur moi. On me respecte parce que j'ai de l'argent. Et ça a été terrible, ça a ravagé ma vie. Parce que chaque jour, il m'en fallait plus. Chaque jour, il me fallait de l'argent. Mais malgré que j'avais de l'argent dans les poches, il y avait un vide dans mon cœur. Un vide qui était lié à pas mal de paramètres de ma vie. Ayant été abandonné par mes parents, je n'ai pas reçu d'amour, d'affection. Et ce vide-là, eh bien, ce mal-être qui était en moi, j'ai essayé de le combler en me créant un monde artificiel. Fallait que je boive de l'alcool, fallait que je me drogue à coups de cachet, d'extasie, pour me déconnecter de la réalité. Parce que je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Et ça a été un piège terrible parce qu'il n'y a que lorsque j'étais sous l'effet de ce poison que je me sentais exister, je me sentais vivre. Mais la réalité, c'est que ça m'a amené très bas, de plus en plus bas. Un jour, alors que j'étais en train de témoigner dans un collège, il y a un jeune qui me pose une question audacieuse. Il me dit, « Monsieur le pasteur, lorsque vous braquiez des banques, l'argent que vous avez pris, votre magot, où vous l'avez caché? Vous l'avez mis où ?» Alors je dis à ce jeune, « Tu sais, le jour où j'ai confié ma vie à Jésus-Christ, j'en ai profité pour déclarer faillite. Cet argent mal acquis, je n'en veux plus. » Et tout à coup, je lui dis, le paradoxe, c'est qu'en prison, alors que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai renoué avec la paix, j'ai renoué avec la joie. Et c'est ça la vérité. Dieu est venu combler ce vide. Tu es peut-être arrivé dans cet endroit avec le cœur vide. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu essaies de combler ce vide par tout un tas de stratégies, mais tu le sais au fond de toi-même, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui, tu ne te réjouis pas. Peut-être que tu n'aimes pas la vie. Et pourquoi tu ne viens pas à Jésus? Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ton Créateur qui t'aime, ton Créateur qui t'appelle, ton Créateur qui est capable de combler ce vide? Je me souviens de cette fille que je vois à la fin d'une réunion, elle est en train de pleurer. Et je m'approche d'elle, j'essaie de connaître les raisons de son état. Et elle me dit, voilà, j'ai grandi à l'église et puis à un moment donné, j'avais envie de découvrir tout ce qu'il y avait dans le monde là, à l'extérieur. Alors, je me suis mis à faire tout un tas de choses et progressivement, au fur et à mesure du temps, je me suis enlisé dans le bourbier du péché au point que j'étais dégoûté de ma propre personne. Et pas plus tard qu'hier, en observant ma vie, il y avait tellement un mal-être qui était là que je suis monté sur une chaise, j'ai mis une corde à mon cou et j'ai tenté de me pendre, de mettre fin à mes jours. Mais la corde a craqué. Et aujourd'hui, on m'invite à l'église, j'entends le message de l'évangile et j'ai décidé de confier ma vie à Jésus. Et mes larmes, ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais ce sont des larmes de joie, de reconnaissance, parce que hier, je pensais que tout était fini, mais là, je réalise que tout commence avec Dieu. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Quel que soit ton vide, Jésus peut le combler. Dites à votre voisin, quel que soit ton vide, Jésus peut le combler. La vie est belle, n'est-ce pas? La vie est belle. Certainement, le 31 décembre, vous vous êtes souhaité plein de belles choses. Prospérité, santé. Bref, vous avez peut-être planifié toute cette année. Toute cette année, elle est déjà planifiée. Peut-être même les années futures, dans 10, dans 20, dans 30 ans. Il y a des jeunes qui sont là, ils voient leur vie très loin. Mais la vie ne vous appartient pas. Je dis que la vie ne vous appartient pas. La vie, c'est une vapeur qui paraît pour un peu et disparaît. Tu ne connais pas pour demain. Voilà pourquoi la Bible dit, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne connais pas pour demain. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Et cet homme riche, s'il avait su le calvaire qu'il allait vivre, certainement sur la terre, il aura accepté Dieu dans sa vie. Mais malheureusement, il pensait contrôler son futur, comme beaucoup. Même lorsqu'ils traversent le couloir de la maladie, ils se disent, je m'en sortirai encore. Même l'homme, lorsqu'il est conscient de ses fautes, de ses erreurs, lorsqu'il est conscient qu'il a une attitude néfaste pour lui-même, il se dit, demain, j'arrêterai demain de fumer, j'arrêterai demain de boire, j'arrêterai demain de tromper ma femme, j'arrêterai demain de jouer ma paye au tiercé, j'arrête demain. Peut-être que demain n'arrivera jamais. Voilà pourquoi il est dit, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Une chose est sûre, c'est que Dieu t'aime. Je dis que Dieu t'aime et Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu se révèle à toi ce soir. Cet homme riche se retrouve en enfer. Ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu, mais c'est à cause de ses choix. Ce sont tes choix qui conditionnent ton futur, avec ou sans Dieu. Aujourd'hui, Dieu te tend les bras. Mais si tu décides de vivre pour toi-même, si tu décides de suivre, d'assouvir tes propres passions, pourquoi tout à coup là-haut, tu vas dire à Dieu, « Hé, je voudrais rester avec toi pour l'éternité. » Dieu te respecte. Ce sont tes choix qui te rapprochent de lui ou ce sont tes choix qui t'éloignent de lui. Et nous retrouvons Lazare en compagnie d'Abraham. Il est en compagnie d'Abraham et tout à coup, l'homme riche, eh bien, commence à crier, « Hé, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement au sein de ces flammes. » C'est terrible l'enfer, c'est terrible. La Bible dit dans Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Je me souviens ce jour où je suis avec ma conjointe, il y a les enfants, et elle me voit me préparer. Ma conjointe, dès qu'elle me voyait sortir de la maison, elle savait pertinemment que ce n'était pas pour aller faire un footing. C'était pour aller chercher de l'argent. Chercher de l'argent. Ça, c'était ma vie. Pourquoi ? Parce que pendant toute ma vie, j'ai cru que j'étais fait pour vivre l'enfer sur la terre. Que c'était la volonté de Dieu que je souffre. Et puisque mon travail, c'était de voler, à chaque fois que ma conjointe me voyait m'habiller, elle se disait, il s'en va pour voler. Et un soir, je suis en train de me préparer devant elle. Et elle me dit, pourquoi tu ne restes pas à la maison ? Il y aura un film à la télé, je vais préparer un repas, reste avec nous, avec les enfants, reste avec nous. Mais dans mon cœur, j'ai une vingtaine d'années, la vie m'appartient. Et je me dis que je suis à l'abri de tout. Non, la mort c'est pour les autres, c'est pour les vieillards, c'est pas pour moi. Moi, je vais m'en sortir. Et dans mon cœur, je suis résigné à sortir de la maison et aller faire mes bêtises. Alors, je sors du foyer et je fais ce que j'ai à faire. Et pendant la nuit, on va m'infliger 3 coups de couteau. 3 coups de couteau dans le thorax. Le poumon va être touché, je me retrouve à l'hôpital. Et le médecin, après m'avoir ausculté, me dit qu'il faut m'opérer en urgence car je fais une hémorragie interne. Et il est là avec mon brancard, il est en train de courir pour me conduire au bloc opératoire. Et j'entends encore ma conjointe qui me dit, « Yanis, pourquoi tu ne restes pas avec nous à la maison ?» Pensez-vous, j'aimerais faire machine arrière. J'aimerais me retrouver dans cette situation où ma conjointe me lance cette invitation, mais c'est trop tard. À présent, je suis peut-être pas loin de mourir et je regrette d'avoir fait ce mauvais choix. Je le regrette, mais c'est trop tard. Je vais te dire ce soir, tu es peut-être résigné dans ton cœur à poursuivre un chemin qui n'est pas bon pour toi. Tu le sais pertinemment, peut-être même que les gens qui t'aiment t'ont dit « Hey, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. » Peut-être que Dieu t'interpelle et dans ton cœur, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Ne dis pas demain. Ne dis pas demain, je vais changer d'attitude, je vais changer de voix. J'aimerais te dire que demain peut devenir ton pire ennemi parce que peut-être que demain n'arrivera jamais. Peut-être que demain n'arrivera jamais. Les gens sont, aujourd'hui, ils ont des allures de mort vivant. Ils ne sont pas heureux. Je me souviens, je suis dans le train et le chauffeur stoppe les machines et il nous dit, il y a quelqu'un qui vient de se jeter sur les rails. Là, je suis abattu, attristé. C'est la première fois que je vis quelque chose de pareil et je me dis, mais pourquoi ça n'existe pas une machine à remonter le temps ? Je me serais arrangé pour me retrouver auprès de cette personne-là qui s'est jetée, qui s'est suicidée, qui a mis fin à ses jours, fin à calvaire, à un supplice, à quelque chose qui ne supportait plus. Ouais, je me serais mis à côté de lui sur le quai avant qu'il commette quelque chose d'irréparable. Et je lui aurais dit, monsieur, vous savez, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, même si vous êtes à bout, je vous assure que je connais quelqu'un qui peut tout changer pour vous. Je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser cette situation. Je connais quelqu'un qui peut mettre la paix dans votre cœur. Je connais quelqu'un qui peut reconstruire votre vie en ruine. Cette personne, c'est Jésus. Mais pour lui, c'est trop tard. Oh, je pourrais multiplier les exemples de personnes qui pensaient avoir l'avenir devant eux et qui malheureusement ont vu la mort arriver. Je me souviens de ce groupe de jeunes, je suis à l'hôtel et puis en face de moi, il y a une fête d'étudiants. Il y a 15 jeunes qui sont là sur le balcon. Et peut-être qu'ils venaient d'obtenir un diplôme. Bref, c'était les réjouissances, la musique à fond. Et puis ça dansait, ça fumait, ça buvait. Peut-être dans leur discussion, dans leur échange, ils étaient en train de se dire « Oh, l'année prochaine, moi je serai aux États-Unis. » Peut-être qu'ils s'étaient déjà inscrits à une faculté. Plein de projets, plein d'ambitions. Et c'est tout à fait normal dans leur cœur. Mais tout à coup, le balcon s'effondre. Et ces 15 jeunes se retrouvent au sol. 4 morts. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Cet homme riche, il est conscient que désormais il va souffrir. C'est terrible l'enfer. Faut pas y aller. Tous ceux qui décident d'aller en enfer sur la terre ont décidé d'aller en enfer, en refusant de se tourner vers Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est une réalité. Dieu nous aime. Et tant que tu seras sur la terre, les mains de Dieu viendront frapper à la porte de ton cœur. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il veut rester avec toi aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Mais ce sont tes choix qui vont destiner, conditionner ton futur avec ou sans Dieu. Avec ou sans Dieu. Chaque problème trouve sa solution en Jésus. Qu'importe ton problème, tu peux venir à Jésus aujourd'hui. Tu peux lui confier ta vie. Et c'est l'assurance pour toi de voir des choses extraordinaires se produire dans ta vie. Parce que lorsque Dieu pose sa main sur quelqu'un, c'est ta vie toute entière qui est révolutionnée. Dieu est celui qui change les vies. Je dis que Dieu est celui qui change les vies. Il change les vies et il peut changer ta vie ce soir. Je dis, il veut changer ta vie ce soir. Est-ce que Dieu t'aime? C'est peut-être la question que tu te poses. Comment Dieu peut m'aimer? Moi qui suis tellement mauvais. Moi qui ai fait tellement de bêtises. Moi qui, depuis des années, arpente les chemins ténébreux. Moi qui ne m'aime pas, comment Dieu peut m'aimer? Comment Dieu peut m'aimer? Je reviens du Canada il y a une quinzaine de jours. J'ai apporté l'évangile dans une prison fédérale. Et après avoir apporté mon témoignage, bien que tous les détenus aient répondu à l'appel de Dieu, il y en a un qui m'a interpellé. Un vieillard qui était incarcéré depuis 1973. S'est levé et a donné sa vie à Jésus. Depuis 1973, il était enfermé dans une géole, dans une prison. Depuis 1973, cet homme était incarcéré. Et en 2019, il s'est levé et il a donné sa vie à Jésus. Aucune situation n'est irréversible pour Dieu. Cet homme riche, il veut aller voir Lazare. Il veut rejoindre Abraham. Mais Abraham va lui dire, c'est pas possible. Il y a un gouffre là. Il est infranchissable. Si tu veux passer, tu ne saurais le faire. Si on veut venir vers toi, ce n'est pas possible non plus. Mais j'aimerais te dire que ce gouffre là pour toi, il est franchissable. Ce gouffre là a été comblé par l'amour de Dieu. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est celui qui te permet de traverser les ténèbres pour venir dans sa lumière. Est-ce que je mérite l'amour de Dieu? Est-ce que je suis trop mauvais pour m'approcher de Dieu? J'aimerais te dire une autre chose. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Tel que tu es à ta place dans les plans de Dieu, tel que tu es, tu peux venir à lui ce soir. Conclusion, La Bible dit dans Job 27, verset 8, « Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu lui coupe le fil de la vie, quand il lui retire son âme ?» Quelle espérance reste-t-il lorsque Dieu retire le fil de la vie ? Tu n'as pas payé pour respirer. Le souffle de ta vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Le jour où Dieu veut le reprendre, eh bien, tu te retrouveras face à lui. Et ce sont tes choix qui vont déterminer ton éternité, avec ou sans Dieu. L'homme riche supplie Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il puisse témoigner, attester à ses frères tout ce qu'il vit, afin qu'il ne vienne pas le rejoindre dans ce lieu de tourment. Mais Abraham va lui dire, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent. Aujourd'hui, la parole de Dieu, le message de l'Évangile est partagé. Dieu se révèle à toi, Dieu te dit à quel point tu es précieux à ses yeux. Et c'est toi qui vas décider, soit de rester comme tu es arrivé, soit de t'approcher de lui et de le voir changer ta vie. Il y a plein d'exemples dans la Bible où nous voyons des gens à la fin de leur vie, tel que le brigand sur la croix, Luc 23, verset 39-43 nous parle de ça. Cet homme qui n'a jamais mis les pieds dans une synagogue, qui n'a jamais donné une offrande, cet homme qui est un criminel des plus endurcis, qui est condamné à la pire des condamnations, se tourne vers le Seigneur. Là, il est sur une croix, il est en train d'agoniser, de mourir. La mort arrive, le Seigneur est là, il se tourne vers lui et il va lui dire, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Jésus-Christ ne va pas le juger, Jésus-Christ ne va pas le condamner, il va lui dire, « Ce soir !» Tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. » Oui, Jésus-Christ, là, sur la croix, va le sauver. Que vas-tu faire? Que vas-tu décider? Je me souviens de ce toxicomane qui était malade, qui vivait dans notre quartier. J'étais quelqu'un de mauvais, mais lui, je le considérais comme le rebut de la société. Il n'était rien à mes yeux. D'ailleurs, dès qu'il venait engager la conversation avec moi, je le repoussais. De temps en temps, sa mère, qui ne le voyait pas rentrer à la maison, arrivait au quartier et puis commençait à demander à tout le monde où était son enfant. Alors, on disait à cette femme, « Votre fils, il est dans son squat, où il passe ses journées et ses nuits à se droguer du matin au soir. » Et sans réfléchir, cette femme montait les escaliers et rentrait dans l'appartement insalubre et commençait à rechercher son enfant pièce par pièce. Il lui arrivait de retrouver son enfant allongé au sol, gisant dans son vomi, complètement explosé à l'héroïne. Et là, son réflexe était de s'asseoir à ses côtés. Elle prenait son visage qu'elle serrait contre sa poitrine et commençait à pleurer en remerciant Dieu de ce que son enfant soit encore en vie. Et lorsqu'on voyait cette femme rentrer à la maison avec son enfant, les seules questions qu'on se posait, c'est comment elle fait? Il est répugnant, il est dégoûtant. Comment elle fait pour vivre avec lui? Comment elle fait pour le regarder dans les yeux? Comment elle fait pour l'embrasser? Comment elle fait pour manger en face de lui? Comment elle fait? Mais c'était son enfant et elle l'aimait. C'était son enfant. Le livre d'Ésaïe, il est dit, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais moi l'Éternel, jamais. Jamais je ne t'abandonnerai. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Ça, c'est une vérité. Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il veut te sauver. C'est pour ça qu'il veut rester avec toi pour l'éternité. Parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il t'interpelle ce soir. Afin que tu puisses changer de voie. Tu puisses te tourner vers lui. Dieu t'aime. La vie, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. Un cadeau, un cadeau. Et Dieu veut que tu sois heureux sur la terre. Il veut que tu sois libre sur la terre. Il veut que tu puisses t'épanouir avec lui. Il veut se réjouir avec toi sur la terre. Alors ce soir, ne lui tourne pas le dos. Ne résiste pas à son appel. Ne résiste pas à son amour. Viens à lui tel que tu es. et tu verras ce qu'il a fait dans la vie de tant de personnes, il le fera dans ta vie. Parce que Dieu est vivant, il ne change pas, c'est le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu aujourd'hui, et ce sera le même pour l'éternité. Nous allons nous lever ensemble dans la présence de Dieu ce soir, et je veux simplement vous demander de considérer l'appel qui vous est lancé. Peut-être que ce soir, levons-nous s'il vous plaît.